Voilà, comme je l'ai bien expliqué, donc, à propos de la philosophie, le philosophe, donc, essaye de s'informer d'un maximum de choses, bien, et puis alors il essaye de prendre position et de parler en jeu, et de dire ce qu'il pense de tout ce qu'il a étudié. Donc il n'est pas un sujet qui se met en arrière du savoir, hein. Il prend position par rapport au savoir. C'est évidemment cette position que je vais prendre comme philosophe. Je me suis informé scientifiquement le mieux que je pouvais, mais comme je vous le dis, je ne suis pas biologiste, ni paléontologiste, ni rien de tout ça. Mais quand même, voilà une série de renseignements que j'ai pu rassembler et sur lesquels je vais réfléchir. Vous avez une feuille, monsieur ? Alors, la première feuille... Eh bien, c'est un peu le résultat de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande fresque de l'évolution. Donc, la légende, c'est que MMA, ce sont des milliards d'années, 2M, des milliards d'années, MA, des millions d'années. Alors, on part du tableau qui est là, on part de en haut à gauche, et on descend en bas à droite. Mais donc la première colonne, c'est une première partie de l'exposé. Vous avez tout, les 100%, si on veut, depuis 15 millions d'années, sur la colonne de gauche. Et la colonne de droite, je reprends les 5 derniers pourcents de la colonne de gauche. Je fais un zoom sur ces 5 derniers pourcents. Et je recommence, donc à moins 10 millions d'années. Et voilà, je développe bien les datations que l'on a pu évaluer jusque maintenant. Alors, comme vous savez, donc, il y a l'idée actuellement de la théorie du Big Bang qui a été mise en avant par Georges Lemaître, un disciple d'Einstein, qui, comme vous le savez, bon, a présenté sa théorie à Einstein qui ne voulait pas le croire. Hein. Et puis, ce n'est qu'après certaines réticences. Tout ça s'est d'ailleurs passé ici à Bruxelles, hein, au colloque Solvay. Hein. Après une série d'argumentations, etc., il a fini par entrer dans cette idée que tout a commencé avec un atome primitif. Alors le mot atome, évidemment, ici est analogique. Hein. Ça n'a rien à voir avec les atomes qui ne vont apparaître que bien plus tard, puisque vous le voyez ensuite, atome et galaxie. Hein. L'atome primitif est donc quelque chose de dimension nulle, de température infinie, de densité infinie, c'est une boule, point, sans dimension, hein, d'énergie, voilà, qui explose, semble-t-il, c'est ce qu'on appelle l'atome primitif, et puis il y a une série de transformations à partir de cette explosion, et les toutes premières transformations, c'est ce qu'on appelle donc les aires quantiques, hadronique, leptonique, radiative, stellaire, etc. Vous voyez que les toutes premières périodes sont extrêmement courtes, puisque la première ère quantique dure, enfin, une portion de temps qui est 10⁻�43 secondes. Donc 10⁻�43 secondes, c'est une seconde divisée par, eh bien, 1 avec 43 zéros. Vous voyez que là, c'est vraiment une période de temps extrêmement courte, mais pendant laquelle se passent des choses évidemment très importantes. Mais selon les spéculations de Planck, au-delà, ou plutôt en deçà de cette première période qui est minuscule, hein, c'est une seconde sur etc., eh bien, la physique ne parvient pas à savoir ce qui s'est passé. Ce n'est que lorsque ça commence à devenir un peu plus élaboré, qu'on peut voir ce qu'est l'ère hadronique, l'ère leptonique. Là, nous sommes à 10 secondes de notre temps actuel, semble-t-il, hein, 10 secondes. Mais il s'est déjà passé énormément de choses après cette explosion. L'ère radiative dure depuis la dixième seconde jusqu'au premier million d'années. Là, vous voyez maintenant que les périodes commencent à s'allonger, hein. Et puis, l'ère stellaire, c'est l'ère dans laquelle nous sommes et qui va depuis un million d'années après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Odier, c'est aujourd'hui. Et donc ça, nous sommes dans cette ère stellaire. En effet, après 1 million d'années, commencent à se former des atomes, des vrais atomes au sens du tableau de Mendeleïev. Hein? Et après cela, des galaxies. Alors on essaye de mesurer un petit peu toutes ces périodes de temps. Alors avec les recherches, elles varient. On dit qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas évalué comme il faut, etc. Donc il peut y avoir des variations, bien sûr. Mais je continue, donc après 2 milliards d'années, commencent à se former les étoiles. En moins 11 milliards d'années, eh bien nous avançons vers notre système solaire, qui se met en place à moins 4,6 milliards d'années. Donc là, on a fait vraiment un énorme bond, hein, puisqu'il y a 10 milliards d'années qui se sont passées là, hein, selon le... Je calcule toujours en faisant moins. Voilà. Alors, la ligne là, en pointillé, c'est, eh bien, semble-t-il, l'apparition de la vie avec les premiers organismes unicellulaires sur la Terre. Alors là, il y a évidemment un saut quantitatif, qualitatif plutôt, hein, extraordinaire. L'apparition, même si ce sont des unicellulaires, ce sont des organismes. Alors là, les choses vont commencer à être de plus en plus complexes. Bon, en moins 140 millions d'années, vous avez l'apparition des premiers mammifères, qui sont déjà des animaux très très évolués. Entre les premiers unicellulaires, évidemment, et les mammifères, il y a un bond énorme, les primates, les hominidés, et aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui, je le décline dans la deuxième colonne, hein, je fais un zoom sur ce dernier petit 5% de la première colonne, et j'obtiens la deuxième colonne. Il y a 10 millions d'années, l'ancêtre commun aux singes et aux hommes. L'ancêtre commun aux singes et aux hommes. Alors vous voyez que les primates, donc, sont bien antérieurs à ce premier ancêtre commun. Alors les primates, c'est quoi? Je l'ai mis là au-dessus de la colonne 2. Ce sont les lémuriens, les tarsiens, les simiens, orang-outans, gorilles, chimpanzés. Les chimpanzés sont les plus proches de nous, semble-t-il. Les hominidés. Et donc les chimpanzés ne sont pas des hominidés. Ce sont peut-être des primates simiens, mais ce ne sont pas des hominidés. Les hominidés, eh bien, les seuls survivants qu'il y a, c'est nous, c'est les hommes. Alors, est-ce qu'il y en a eu plusieurs types? Bon, il semble que oui. Mais donc, l'homme descend du singe, bon, c'est pas tout à fait la même chose. On a peut-être un ancêtre commun, mais dire que l'homme descend du singe, c'est un peu rapide. Alors, à partir de cet homme, cet ancêtre commun, singe-homme, nous continuons, et on peut dire que c'est la phase d'hominisation. Hein, d'hominisation. Quand est-ce que l'homme arrive? Bon, de nouveau, il y a différents stades, mais nous sommes à moins 5 millions d'années avec les australopithèques. Pithèque veut encore dire singe. Hein. Et les australopithèques disparaissent, et c'est là que j'ai mis la croix, là, hein, à moins 1 million d'années. Alors, parmi les australopithèques ou parmi ceux qui descendent des australopithèques, il y en a tout à coup qui se mettent sur leurs deux pieds. Sur leurs deux pieds, la bipédie. La bipédie, ce qui entraîne toute une série de choses. Hein. À quatre pattes, ben, la tête est portée d'une certaine manière. Quand on est debout, la tête est portée d'une autre manière. Ce qui permet peut-être, eh bien, hein, l'amplification de la boîte crânienne. Mais ce qui entraîne d'autres difficultés de toutes sortes, bon, les lordoses, etc., ben, c'est probablement parce qu'on s'est mis trop tôt debout. Hein. Mais bon, 4, moins 4 milliards, c'est quand même, moins 4 millions, c'est quand même assez ancien. Voilà. Mais on n'a pas tout à fait encore supporté ce changement d'attitude. En moins 3,2, il y a les fameux ossements de Lucie des Affaires. Hein. Mais malheureusement, il manque la tête et je crois les pieds ou quelque chose comme ça. Donc, c'est encore difficile de savoir où on en est vraiment. Est-ce que c'est Ève? Bon, disons, c'est un peu difficile à trancher. L'Homo habilis, il y a 2,5 millions d'années, parce qu'on découvre des outils. Alors vous voyez que tout cela dépend de sciences très précises. Le carbone 14, maintenant on dit non, le carbone 14 c'est pas assez fiable, il y a d'autres manières de faire. Mais on découvre des outils il y a très 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 longtemps, hein, 2 millions d'années. Le cerveau commence à se développer de manière spectaculaire par rapport aux autres animaux. Alors, l'Homo erectus, l'Homo habilis avec les outils, l'Homo erectus, il est vraiment debout. On découvre des hommes moins 500 000 ans à Pékin, le synanthrope. Vous savez que Théa de Chardin a participé à ces fouilles, hein, à Pékin. Maîtrise du feu, il y a 400 000 ans, évidemment, chose extrêmement importante pour l'alimentation, mais aussi pour la défense par rapport aux autres animaux, etc. Moins 125 000, les Néandertaliens, qui s'éteignent en Europe en moins 32 000, avec des questions de savoir, par exemple, s'ils étaient interféconds. Hein. Il y a des branches peut-être qui s'éloignent, mais sont-ils interféconds? Ben, ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il reste des gènes de Néandertaliens dans le gène? Il paraît que oui, en petite proportion, etc. Bon, là, voilà, ce sont des études qu'on peut faire. Moins 100 000 au Proche-Orient, on découvre eh bien, des sépultures. Et on parle alors de l'Homo sapiens, il y a 100 000 ans. J'ai mis des flèches vers le haut pour indiquer que toute cette période antérieure de la deuxième colonne, c'est l'hominisation, tandis qu'à partir de là, on peut parler de l'humanisation. En faisant cette distinction, d'un côté c'est plutôt, je dirais, le physique, hein, et tandis que l'humanisation c'est plutôt l'intellectuel, le spirituel. Parce qu'apparaît bientôt l'art. Alors l'art c'est quoi? Eh bien, ce sont des dessins, ce sont des instruments de musique, ce sont des bijoux, hein, des ornements, des colliers, etc. Donc voilà, il y a une recherche d'un autre type, hein, de la beauté, si on veut, dans cette apparition de l'art. L'Homo sapiens sapiens, le néolithique, il y a moins 10 000 ans, qui se caractérise donc par une sédentarisation et une culture. Hein, au lieu d'être à la chasse et à la cueillette et à la pêche, etc., eh bien, on commence à cultiver et à domestiquer des animaux. Et on peut remarquer qu'il y a des animaux domestiques comme les vaches, mais aussi comme les chiens, etc., qui commencent à accompagner l'homme, hein, depuis cette période. Alors, en moins 2600, c'est la période des grands mégalithes européens. Il y a des sites comme ça, hein, où on voit des pierres énormes qui sont disposées de manière évidemment voulue. On se demande d'ailleurs comment on a fait. Hein. C'est aussi les pyramides d'Égypte. Il y a des théories sur les pyramides d'Égypte. Est-ce qu'on a dû monter les pierre jusque là-haut, ou bien est-ce que c'est un espèce de ciment, hein, qu'on coulait là-bas, enfin bon, il y a toutes sortes de théories. Et l'histoire biblique, bon, qui commence à peu près en moins 1800, jusqu'aujourd'hui. Alors, la petite indication là, du 31 décembre, c'est ceci, c'est que si les 15 milliards d'années jusqu'aujourd'hui représentaient une année, hein, et qu'à chaque période on faisait une règle de 3 pour savoir où on en est dans l'année, eh bien, l'histoire biblique commencerait le 31 décembre à 23h59 minutes 52 secondes. Donc 8 secondes pour l'année biblique, pour l'histoire biblique, donc pour les 4000 dernières années. Quoi. C'est absolument incroyable. Donc tout ce qui a précédé, alors on pourrait calculer quel jour est apparu Lucie des Affaires, etc. Mais c'est probablement pas très très loin dans le mois de décembre. Voilà, alors vous voyez que je vous avais parlé des sciences formelles, des sciences empirico-formelles. Vous voyez que dans la première colonne, on en est beaucoup à la physique. Dans la deuxième colonne, on en est beaucoup plus, hein, dans les sciences biologiques. Donc il y a la physique, la chimie, la biologie. Certainement que la physique est reine dans la première colonne. Hein, et que la biologie et toutes les sciences annexes, hein, comme la zoologie, l'embryologie, etc., eh bien, et c'est plutôt dans la seconde colonne, avec bien sûr la paléontologie, qui qui est bon, à la recherche des fossiles, l'interprétation de, des fouilles, etc. Et bien sûr, entre les deux, la chimie. Hein, la chimie. Et vous voyez donc qu'on doit s'adresser à des scientifiques d'une autre discipline pour avoir des renseignements sur telle période plutôt que sur telle autre. Mais la théorie de l'évolution est une théorie vraiment qui reprend un peu toutes les sciences, qui met au travail toutes les sciences. Voilà, ça c'est un premier petit parcours. Et maintenant nous allons réfléchir sur ce parcours. Pas à chaque étape, mais disons je vais prendre le livre de Darwin, L'origine des espèces. Darwin qui publie ce livre en 1859. 1859. Je me suis inspiré d'un livre ici qui reprend un grand congrès qui a été fait à Rome pour les 150 ans de ce livre. Donc 150 ans après l'origine des espèces, à Rome, toutes sortes de scientifiques, chrétiens et autres, se sont rassemblés, ont réfléchi là-dessus. C'est vraiment une somme de renseignements et de réflexions aussi philosophiques et théologiques. Marc Leclerc, qui était un jésuite belge aujourd'hui décédé, a été un des trois éditeurs de ce livre. Il enseignait à Rome à la Grégorienne. Voilà, Darwin, en 1859, publie son livre, L'origine des espèces. Alors, on pourrait spécifier ce titre davantage en reprenant une formule qu'il a quelque part, mais ce n'est pas le sous-titre de son livre, mais c'est une formule qu'il a dans son livre. Descent with modification through natural selection. Donc, descent, c'est descente, descendance, origine, avec des modifications. Hein. Donc, la descendance des espèces avec des modifications à travers la sélection naturelle. Bien. Alors, en fait, ce titre est double, comme vous voyez. Hein. Il y a d'une part l'idée d'une généalogie, ça descend, avec des modifications, ça c'est la généalogie, mais à travers le principe de la sélection naturelle. Ça c'est une autre chose. C'est une explication du mécanisme de cette généalogie. Alors au fond, eh bien, il y a deux sous-théories hein, dans la théorie de l'évolution, il y a l'aspect généalogique que j'appelle ici le principe A et le moyen de la sélection qui sert à ce que cette descendance se présente de cette manière là, c'est le principe B. Je vais donc étudier donc à partir de cette distinction du principe A et du principe B. Darwin a écrit d'autres ouvrages bien sûr, mais toujours avec un peu la même idée. Il a écrit par exemple un ouvrage sur les animaux domestiques. Pourquoi s'intéresse-t-il aux animaux domestiques? Parce que les animaux domestiques, c'est une sélection artificielle. C'est une sélection artificielle. Les hommes, en effet, veulent domestiquer les animaux, et puis alors ils veulent avoir plus de lait, ils veulent avoir... ceci, cela, ils font des croisements, des hybridations, etc. Donc, ils désirent eux-mêmes obtenir un résultat avec les animaux. Hein. Et alors, voilà, ils font eux-mêmes un type de sélection. Ils gardent les animaux qui sont plus gros pour la viande, hein, ceux qui sont plus laitiers pour ceci, etc. Bon, il y a une sélection artificielle. C'est très intéressant hein, qu'il étudie la sélection naturelle par rapport à la sélection artificielle. Il a écrit en 1871 aussi un ouvrage sur l'apparition de l'homme, ouvrage très attendu, puisque dans le tout premier ouvrage sur l'origine des espèces, il n'y avait que deux ou trois lignes sur l'apparition de l'homme. Tout le monde a dit, oui, l'origine des espèces, c'est nous qui sommes intéressés par ces espèces. Hein. Quand est-ce que vous ferez ce livre? Il a vraiment attendu très longtemps pour écrire ce livre sur l'apparition de l'homme. Alors, au niveau historique, on peut dire qu'avec la théorie de l'évolution, on a un changement de paradigme complet en science. La question du changement de paradigme, c'est un concept de l'histoire des sciences, de philosophie des sciences, hein, qui a été mis à l'honneur par Thomas Kuhn. Changement de paradigme, c'est quand, à l'intérieur d'une science, tout à coup, hein, il y a une découverte ou une organisation des éléments de cette science qui permet, qui oblige à reprendre tout à zéro, hein, à changer complètement sa conception, à opérer une révolution, hein, une révolution dans l'organisation de la science. Alors bien sûr, la relativité, par exemple, bien la théorie quantique, etc., sont des changements de paradigme, mais il semble bien que la théorie de l'évolution soit le changement de paradigme le plus important qu'il y ait jamais eu en science, peut-être encore plus que le géocentrisme, parce que Galilée et le géocentrisme, oui, mais il y a déjà des Grecs avant Jésus-Christ qui disaient, hein, qui tenaient le géocentrisme, enfin qui étaient contre le géocentrisme, hein, qui étaient pour l'héliocentrisme. C'était des hypothèses, bien sûr, mais c'était conçu. Tandis que la question de l'évolution n'a jamais été pensée. C'était impossible, impossible, hein, que l'être humain, eh bien, pense que un de ses ancêtres était un singe ou qu'il avait un ancêtre commun avec les singes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, d'une certaine manière, il y avait un modèle fixiste. Si ceci est le temps, et ça c'est aujourd'hui, un modèle fixiste, c'est-à-dire qu'une espèce qui était là, eh bien, elle avait été créée ainsi, et c'est vrai que le récit de la Bible et toute la foi chrétienne et toute l'idée de Dieu qui a créé le monde y était pour quelque chose. Eh bien, s'il y avait un être qui était ici, une espèce qui était ici, c'est parce qu'il avait été créé tel quel là-bas, au début. Hein? Bon, ça c'est clair. Alors, c'était possible que certaines races aient disparu, que certaines aient dégénéré. Il y avait les théories de la dégénérescence. Hein? Donc, un âne, c'était un cheval dégénéré, par exemple, des choses comme ça. Bon. Il y avait des théories de ce style-là, mais grosso modo, eh bien, on avait un parallélisme des espèces qui tout avait été créé tel quel au début de la création et qui, voilà, ben, continuait à avancer de manière imperturbable à travers le temps. L'idée même d'une évolution, c'est vraiment tout à fait une révolution. Lamarck avait déjà observé des histoires sur les fossiles, etc., un petit peu avant, mais pas tellement longtemps avant. Et donc, c'est un changement de paradigme peut-être le plus rapide et aussi le plus dramatique dans l'histoire des sciences. Pourquoi dramatique? Eh bien, parce qu'il conteste apparemment, hein, un article de foi, une croyance religieuse répandue à partir de la Bible, mais aussi pratiquement de tous les autres grands écrits religieux, etc. En tout cas, dans l'Occident chrétien, il est clair que l'idée de l'évolution n'était pas du tout attendue à partir de la religion chrétienne. Avant, donc, c'était un fixisme qui était là. Et est-ce que le fixisme n'a aucune chance aujourd'hui? Est-ce qu'il est complètement évacué? Eh bien, vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a toute une série de penseurs chrétiens, et même des scientifiques, qui continue à tenir ce qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme. Donc c'est l'idée que la théorie de l'évolution n'est pas suffisamment solide, et nous allons en discuter parce qu'il y a beaucoup de critiques à lui formuler, que cette idée n'est pas du tout suffisamment solide pour qu'on y adhère, et que l'idée du créationnisme continue à être une hypothèse valable, une théorie valable. Alors je crois que en Europe, ce n'est plus beaucoup le cas. Hein, tout le monde maintenant croit dur comme fer à l'évolution et peut-être plus qu'en Dieu, évidemment. Hein. Donc ça ne fait pas de problème. Il n'y a pas de fondamentalistes chrétiens qui sont des créationnistes en Europe, mais aux États-Unis, il y en a. Et même des grands scientifiques, hein, qui continuent à tenir cette thèse-là. Oui, oui, parce qu'il y a des objections scientifiques, hein, contre l'évolutionnisme. Et donc, on tombe des nues lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui croient encore à la création. Mais voilà, c'est clair. Alors, par exemple, un auteur comme Dawkins, un grand biologiste et généticien, etc., hein, qui a beaucoup travaillé à tout ceci, n'est pas du tout un fondamentaliste, au contraire, hein, et il fait une charge complète contre la religion chrétienne parce qu'il a affaire à des fondamentalistes américains. Donc, lorsque vous lisez ce livre, vous dites, tiens, je vais une fois lire un athée intelligent, je vais une fois voir quelles sont les objections qu'il fait contre ma foi. Ben, contre ma foi, à moi, il ne fait aucune objection. Hein. Parce qu'il fait des objections contre le créationnisme fondamentaliste que certains tiennent. Mais si vous êtes un chrétien et que vous admettez l'évolution en partie, vous ne trouverez aucun argument, disons, qui va vous ébranler chez Dawkins. Tout ce qu'il dit, vous êtes d'accord. Mais lui, il dit maintenant, tous les chrétiens sont à côté de la plaque, mais ils se trompent un peu de cible, en tout cas par rapport à nous, je dirais, mais pas par rapport à ces créationnistes. Alors, donc changement de paradigme, notre imaginaire a complètement changé. Parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas des scientifiques, nous n'avons pas examiné toutes ces thèses, mais nous croyons ce que des scientifiques disent, et ça fait partie de notre imaginaire. Et l'image que l'homme se fait de lui-même est très, très, très importante. Marcus Gabriel, dont je vais vous parler la prochaine fois d'ailleurs, dit que l'homme, on peut le définir comme cet être qui se fait une image de lui-même. Qui se fait une image de lui-même. Et qui veut correspondre à une image, ou bien qui est déçu de ne pas correspondre à une image, ou bien qui tend à une autre image de lui-même. C'est vrai au niveau individuel, sans doute, mais c'est vrai aussi au niveau collectif. Il y a des périodes où l'homme se représente comme étant ceci ou cela, et des périodes où il change complètement de paradigme, et c'est évident que, eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, si vous lui avez parlé d'évolutionnisme, il aurait dit, mais vous êtes fou, quoi. Où est-ce que vous êtes, pour penser à ces choses-là? Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelqu'un qui viendrait vous dire, non, moi je crois au créationnisme, vous dites, mais enfin, ce type-là, il sait rien, quoi. Il sait rien du tout. Or, en fait, ni l'un ni l'autre... Nous ne savons plus l'un que l'autre. Hein. Nous sommes au niveau de l'imaginaire, nous appuyant bien sûr sur ce que certaines personnes nous ont dit autour de nous. Mais à un niveau philosophique, je crois qu'on doit aller un peu plus loin, hein, et faire les critiques de choses même auxquelles on croit dur comme fer. Parce que dans l'évolutionnisme, il y a un aspect idéologique. Et je crois que ce n'est pas exagéré de le dire. Hein. Les deux principes que je donnais là de l'évolutionnisme, eh bien, sont deux principes qui ont des conséquences idéologiques. Si l'homme descend du singe, ben, nous sommes des animaux. Pas tout à fait comme les autres, mais nous sommes des animaux. Donc l'aspect plus spirituel, plus religieux, etc., est mis en cause. C'est un réductionnisme matérialiste auquel peut conduire l'évolutionnisme. Je ne dis pas que tous ceux qui y croient pensent ça, mais c'est un danger. Il y a cet aspect idéologique du principe A. Et le principe B, la sélection naturelle. Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à sélection naturelle? Vous voyez des animaux qui se battent, et puis le plus faible doit bien mourir, et bon, son espèce est éteinte. Donc il y a un espèce d'aspect que le moteur de la vie, eh bien, c'est la violence, c'est la compétition, c'est l'élimination, c'est la loi du plus fort. Voilà les deux principes, hein, très clairs dans le titre même du livre de Darwin, qui sont tous les deux sujets à devenir des principes idéologiques. L'homme descend du singe, nous sommes des animaux, toute la spiritualité tombe, et le moteur de l'évolution, c'est le struggle for life, pas de problème, c'est la compétition, c'est la concurrence, c'est le moteur de la vie, hein. D'ailleurs vous voyez bien que, et on justifie une série de choses. Alors je me sers d'un auteur qui s'appelle Gagnon, qui a écrit un article très intéressant ici dans ce volume, pour mettre à jour les 6 postulats du principe A. 6 postulats, et il y en a 2, le 7 et le 8, qui sont un peu des corollaires des autres, donc c'est 6 ou 8 principes. Postulat, et il dit qu'aucun n'est évident, aucun n'est trivial, comme on dit en anglais, hein. Aucun n'est évident, ce sont toutes des affirmations importantes, et des affirmations, comme on va voir, contestables. Alors bien sûr, l'évolution dans son ensemble, aujourd'hui, c'est difficile de la mettre en cause comme ensemble, mais si on analyse et qu'on voit les postulats un par un, on a des objections pour chacun. Alors ces objections ne mettent pas la théorie par terre, mais exige, je dirais, des scientifiques qu'ils aillent plus loin dans leur démonstration hein, que ces postulats sont valables. On ne démontre pas les postulats, mais qu'on a raison de les avoir choisis parce qu'on peut vraiment déduire quelque chose de cela. Le premier postulat, les espèces sont sujettes à modification. Je crois que contre ce postulat, il n'y a pas beaucoup d'objections. Les espèces sont sujettes à modification. Cette modification est lente et graduelle. Ben oui, puisqu'on a la paléontologie qui nous met ça à 100 millions d'années, etc. Hein, l'évolution s'est faite sur cette tranche de temps. Et cette modification est lente et graduelle. Là, nous verrons qu'on peut contester cela à différents niveaux. Beaucoup d'espèces s'éteignent. Alors là aussi, je crois que c'est un postulat qu'on ne peut guère mettre en question. Il y a des espèces qui sont éteintes, et aujourd'hui encore qui s'éteignent. Aujourd'hui, on peut compter le nombre de gorilles qu'il y a dans le monde, ou bien le nombre de... etc. Quand on va au zoo, parfois, on vous dit, ben, il y avait 50 ans, il y avait 200 000 chimpanzés, maintenant il y en a plus de 60 000, dont 3 000 dans les zoos. Enfin, on vous dit des choses comme ça, je dis les chiffres comme ça un peu... Il n'y a que l'homme qui se multiplie à une vitesse incroyable. Hein. Mais, si on veut, dans les animaux un peu de son calibre, eh bien, ils sont beaucoup occupés à disparaître, les pandas et tout, enfin voilà. Beaucoup d'espèces s'éteignent. Les espèces qui ne s'éteignent pas se scindent d'habitude en d'autres espèces. Là aussi, c'est contestable. Hein. Est-ce que les espèces qui ne s'éteignent pas se scindent d'habitude en d'autres espèces? Bon, parfois oui, parfois non. Donc, on a remplacé ce schéma-ci par un schéma de ce style-ci. Hein. Voilà, et puis, voilà, on explique la présence de celui-là parce qu'il y a eu, à partir d'un tronc commun, des modifications, des espèces qui se sont modifiées. Et puis, voilà, on a un schéma comme ceci. Hein. Voilà, donc c'est un peu le schéma. D'ailleurs, Darwin lui-même a fait un schéma comme cela hein, dans son livre, un peu plus perfectionné évidemment. Lui, il le met dans l'autre sens parce que c'est un arbre, donc un arbre, ça pousse du sol. Hein. Mais moi, je trouve que le temps va de la gauche à la droite. Si j'écrivais hébreu, ce serait sans doute l'inverse. Hein. Voilà, c'est un schéma, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est l'idée. Il y a des espèces qui s'éteignent. Et bien, par exemple, celle-ci, on pourrait dire que voilà. Il n'y a plus d'individus qui correspondraient à cette espèce, mais ce sont ses cousins qui sont présents. Alors, ce schéma vous semble peut-être un peu naïf, mais je vous dis, c'est celui, exactement celui de Darwin, que voici. Hein. Vous voyez qu'il est beaucoup plus fin au niveau des dessins. Mais je vois quand même qu'il y a un trou quand même entre la 10e et la 11e génération, il n'a pas mis de pointillés. Là, il ne sait pas très bien comment ça se passe. Il reconnaît donc qu'il y a le fameux chaînon manquant, hein, qui explique beaucoup de choses. Bon, après, il y a d'autres schémas qui ont été perfectionnés. Mais voilà, donc c'est vraiment l'arbre généalogique, hein, tout à fait. Ce n'est pas une invention simplificatrice, ce sont les schémas même de Darwin. Alors j'étais au principe 5. 4, certaines ne s'éteignent pas, elles se scindent en 2, en 3. Bon. Une fois que 2 ou plus d'espèces se sont scindées, elles divergent indéfiniment. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut contester. Hein. Voilà, une fois que ces deux-là, par exemple, eh bien, se sont scindées, elles vont de plus en plus s'éloigner. L'une de l'autre. Bon, c'est un principe qui est mis en avant par la théorie de Darwin. Et il en a besoin, c'est pas arbitraire, hein, pour tenir l'ensemble de son discours. Le diagramme en arbre généalogique s'applique à tous les niveaux taxonomiques. Taxonomique, ça veut dire la classification des espèces. Hein. Alors la taxonomie, c'est très intéressant, c'est faire donc toutes les variétés de plantes, d'animaux, etc. Donc Linné est un des premiers, le Suédois Linné est un des premiers à avoir vraiment fait avancer cela. Il connaissait 18 000 plantes, hein. Pas mal quand même, hein. Et il avait tout répertorié, il avait vu les cousins, les variétés locales, etc. Donc voilà, la taxonomie, c'est évidemment pratiquement à ce niveau-ci la taxonomie, hein. C'est le résultat aujourd'hui. Comment fait-on aujourd'hui, disons, l'arbre généalogique ou logique, hein, des espèces qui existent aujourd'hui? Ça, c'est la taxonomie. Et donc, c'est un stade très avancé, hein, dans le temps et dans la complexification des espèces qui viennent du passé. Le diagramme, donc, s'applique à tous les niveaux taxonomiques, depuis les variétés locales les plus minimes, hein, bon, s'il y a des chats en Italie qui sont différents des chats en Suède, eh bien même cela, hein, cette différence taxonomique purement locale, qui est minime, eh bien, elle est due à cet arbre généalogique, et pas autre chose. Jusqu'aux groupes les plus enveloppants. Donc, hein, ici, si vous avez les choses les plus minimes, ou bien que vous considérez les groupes les plus enveloppants, tous les mammifères, par exemple, hein, eh bien, ça s'explique par l'arbre généalogique. La classification, alors le 7 et le 8 sont deux postulats qui sont en fait des corollaires ou des combinaisons des postulats précédents. 7, la classification est entièrement déterminée par la généalogie. La classification est entièrement déterminée par la généalogie. Alors attention, parce que ça veut dire que Linné n'a rien compris. Hein. Il a fait des embranchements à gauche, à droite, etc. Tous ces embranchements sont arbitraires, selon Darwin. Alors peut-être qu'ils tiennent, mais ils ne tiennent pas parce que Linné a vu qu'il y avait des ressemblances. Ils tiennent par la généalogie, et il faut la trouver, cette généalogie. Hein. Tout ce processus de diversification est réductible à la diversification du niveau le plus bas. Et donc, tout vient d'ici. Et donc ici, ben, c'est carrément les molécules, les cellules, les gènes, etc. quoi, hein. Donc tout est dû à ceci. Bon. Alors, il y a eu beaucoup d'objections à Darwin. Finalement, un certain Huxley, Julian Huxley, a fait une théorie du néo-darwinisme, avec, en laissant tomber une chose ou l'autre, en ajoutant d'autres, qu'on appelle la théorie synthétique, vers les années 30, 40, 50. Et en 1944, on a découvert l'ADN. En 1953, on a découvert sa structure en double hélice. Donc ça, c'est la question de la génétique. La transmission par les gènes d'un organisme à l'autre. Et évidemment, c'est extrêmement intéressant pour étudier l'évolution. Parce que si l'évolution commence carrément avec des molécules qui deviennent des cellules vivantes, qui se multiplient par scissiparité, etc., bon... Parce que tout ce schéma-ci, au fond, nous fait toujours un peu penser à une reproduction par sexualité. Hein. Deux individus qui en donnent un troisième. Mais les cellules ne se développent pas comme cela. Hein. Elles se développent de manière très variée, mais qui ne correspondent pas toujours à ce schéma d'aucune façon. Donc voilà, selon Harber, prix Nobel de médecine en 1978, qui a aussi écrit un article très intéressant ici. Voilà en tout cas des découvertes au niveau des molécules, de l'évolution biologique, qui eh bien, sont susceptibles de re-questionner l'évolution. Des changements locaux dans la séquence des nucléotides de l'ADN provoquent des mutations. Donc on cherche en biologie les facteurs de mutation possibles. Eh bien, des changements locaux dans la séquence des nucléotides dans l'ADN. Des réarrangements intragènes des segments de l'ADN. Alors là, je ne peux pas vous en faire la démonstration, hein. Il y a peut-être des biologistes parmi vous qui peuvent mieux vous l'expliquer. Mais disons, c'est intéressant de voir que là, ben, il n'y a pas de sélection naturelle qui provoque une mutation, hein. C'est une question de hasard. Tout à coup, voilà, il y a deux séquences qui s'inversent ou à l'intérieur d'un petit segment, il y a deux éléments qui se permutent. Pourquoi ? Il n'y a pas une sélection qui dira que l'un est meilleur que l'autre. Hein. Alors, plus intéressant encore, ça vraiment c'est un peu une révolution, l'acquisition d'un segment d'un ADN étranger est donc une acquisition latérale, horizontale et transfert des acquis. Alors, il paraît que les bactéries se bouffent plus ou moins l'une l'autre, hein, et lorsque l'une rencontre une autre, celle-ci a, supposons, acquis telle affaire, et l'autre a acquis telle affaire, eh bien, plutôt que de se reproduire avec la même chose, si l'une bouffe l'autre, eh bien, elle peut adjoindre ce que l'autre a acquis, de manière immédiate. Hein. Donc, non pas avec une séquence de génération, mais à l'intérieur même de la vie d'une bactérie, une peut acquérir quelque chose que l'autre avait acquis dans un autre type d'évolution. Alors il paraît que là nous avons vraiment quelque chose de tout à fait révolutionnaire, parce que ce n'est plus donc dans une descendance où on fait la mutation petit à petit de ce qu'on acquiert, de ce qu'on avait plutôt, hein, qui change, c'est l'acquisition de ce qu'un autre a acquis. Et donc, je dirais, dans une phase quasi immédiate, on fait les acquis de l'un plus les acquis de l'autre. Hein. Et ce n'est pas donc un individu qui doit lui-même évoluer. Hein. Tout à coup, il évolue par un bond. Alors là, ça se fait de manière horizontale, donc il n'y a pas de séquence générationnelle, ce qui évidemment conteste un des principes de Darwin. Et l'acquisition est immédiate. Alors il y a encore un autre mécanisme, c'est la symbiose. Alors là c'est encore plus intéressant si j'ose dire, parce que, pour reprendre sur ce schéma-ci, hein, un niveau moléculaire bien sûr, il peut se faire que deux génomes complets font une symbiose et on a une nouvelle cellule. Alors là, vous voyez que c'est le schéma inverse. Hein. Au lieu d'avoir une diffusion qui s'élargit dans ce sens-ci, on a au contraire un resserrement et on a un troisième organisme qui est vraiment différent. Donc ce n'est pas le père et la mère, hein, c'est vraiment deux organismes différents qui donnent lieu à un troisième. Et il n'y a pas question ici de reproduction par la sexualité, etc. C'est vraiment deux génomes qui disparaissent, on pourrait dire à l'extinction de deux espèces, pour en donner une troisième. Alors qu'ici, au contraire, on avait toujours une dérivation dans le sens d'un élargissement. Alors, je suis toujours dans l'explication du principe A, hein, donc le principe de la descendance et des modifications. Eh bien, voilà quatre objections qu'on peut faire à ce principe A. Il y a, dans l'évolution, dans les scientifiques, des gens qui sont pour le saltationnisme. Saltationnisme, ça veut dire des sauts. Sauts. Donc, d'une espèce à l'autre, il peut y avoir un saut. Donc, ça veut dire que sur un front d'individus, tout à coup il y en a un qui mute de manière rapide et profonde. Alors là ça va à l'encontre du principe que c'est lent et graduel et que c'est une descente. Non, les saltationnistes, il y a des gens très sérieux comme justement Gould et Kimura qui avancent des arguments pour dire que c'est aussi un processus d'évolution que le saltationnisme. Donc là, la généalogie, je dirais, est mise à mal. Hein. Il peut y avoir des mutations qui sont rapides et qui sont par un bond. Le buissonnement, Teilhard de Chardin en parle également, le buissonnement, ça veut dire non pas un arbre comme ça, avec des branches bien définies, etc., mais tout à coup, ici aussi, voilà, eh bien, toute une série de mutations qui se font de manière frontale, hein, contemporaine, et puis, on ne sait pas pour quelle raison, hein, il y a un changement d'environnement, il y a je ne sais pas quoi, et donc il y a beaucoup de mutations, et puis il y en a une ou l'autre qui sort, Et ça se fait de manière très rapide et simultanée, par un buissonnement. Donc ce n'est pas l'arbre qui pousse bien avec des branches comme ça, une tous les mètres. Non, au contraire, là c'est tout un ensemble de minuscules branches qui, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, commencent à se multiplier. Et certaines, eh bien, en effet, se prolongent et pas d'autres. Donc ça va contre le postulat de la continuité oblique prolongée. Parce que, je dirais, la grande objection à tout ceci, ce sont les obliques. Comment est-ce qu'on fait pour passer de là à là? Alors, selon Darwin, eh bien, les générations dérivent de plus en plus, de plus en plus. Il faut des générations et des générations pour arriver là. Et il y a une dérivation avec un éloignement. Mais voilà, ces deux mécanismes-là, si on veut, le saltationnisme et le buissonnement, contestent en tout cas la généralisation possible de l'idée de l'oblique prolongée est nécessaire à toutes les explications d'évolution. Alors le transfert génétique horizontal et non plus vertical, dont je vous ai parlé, c'est le point 3 qui était un peu au-dessus, avec ceci. Transfert génétique horizontal et non plus vertical, et donc l'évolution pourrait se présenter non pas comme un arbre, mais comme un réseau, comme un network, où chacun, avec son voisin, va un peu pêcher quelque chose, évolue, et puis d'une manière qui n'est pas rectiligne, linéaire, mais qui se présente plutôt comme un network. Ce qui va contre les postulats 5 et 6, qui dit que, une fois que deux espèces se sont scindées, elles divergent indéfiniment, et 6, qui dit que le diagramme d'arbre généalogique vaut à tous les niveaux taxonomiques. Et enfin, cette symbiose qui implique la disparition donc, de deux génomes complets, qui est l'inverse d'une ramification. Enfin, c'est l'inverse d'une ramification. Donc, avec cela, on n'a pas dit que la théorie de Darwin est fausse de A à Z, mais on dit que c'est une théorie très, très simplifiée par rapport à la réalité. Extrêmement simplifiée, avec des principes directeurs extrêmement intéressants, mais on ne peut pas les tenir tous de manière rigide et en croyant qu'on va pouvoir faire une théorie déductive de tout cela. Théorie déductive, ça veut dire avoir quelques postulats en nombre réduit, et de là, de manière déductive, logique, on va pouvoir voir l'avancée des choses. Alors je prends le principe B, la sélection. Alors ça c'est un schéma aussi que j'ai copié de ce livre-ci. Le principe A suppose un certain taux de reproduction, une limitation des ressources, le constat de variation et de l'hérédité, et à travers le tri, si on veut, que fait la sélection naturelle, on devrait pouvoir expliquer, selon Darwin, tout ce qui est dans la petite colonne de droite là, sont des choses qu'il prétend expliquer par sa théorie. Lesquelles ? L'adaptation morphologique. Vous savez que donc il y a le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est ce qui est à la base, mais invisible, et le phénotype, c'est ce qui apparaît. Eh bien, selon Darwin, toutes les adaptations morphologiques, donc au niveau du phénotype, devraient pouvoir être expliquées par sa théorie. Les instincts, plus ou moins violents, etc., la distribution géographique des espèces sur la planète, la distribution stratigraphique des fossiles, l'extinction de certaines espèces, la divergence des espèces entre elles, les homologies qu'on peut faire au niveau embryologique, en embryologie comparative, en disant, tiens, l'embryon de telle espèce, eh bien, à tel stade, elle correspond à tel autre embryon, à tel autre stade, etc. Et la classification de l'inné, la grande taxonomie, tout cela devrait pouvoir être expliqué, selon Darwin, par ce principe A qui passe à travers le filtre du principe B. En étudiant la sélection artificielle, eh bien donc il fait des expériences sur les trois premiers acquis, l'adaptation morphologique, les instincts, la distribution géographique des espèces. C'est évidemment là des choses que l'homme a provoquées lui-même en sélectionnant des animaux et en les domestiquant et en voilà Par exemple, il y a des îles sur lesquelles, quand on a découvert ces îles, il n'y avait pas d'autres animaux que des oiseaux. Et puis l'homme a amené des cochons, il a amené des vaches, etc. Bon, mais on peut dater de tel moment, eh bien, l'apparition de la vache, ce n'est pas par sélection, hein, c'est l'homme qui artificiellement a emmené donc, ces animaux, etc. De même avec beaucoup de plantes, comme vous savez, les pommes de terre qui viennent de je ne sais pas où, etc. Bon, tout ça c'est de la domestication, de la sélection artificielle qui explique certaines choses, mais qui ne peuvent pas expliquer toutes les choses. Et donc l'étude des deux à la fois est intéressante donc. Trois objections. Il existe un grand nombre de mutations qui sont neutres, qui n'ont rien à voir avec la sélection, ne sont pas meilleures qu'une autre, la mutation est comme ça. Et elle ne va pas être éliminée parce qu'elle serait soi-disant plus faible, elle ne va pas dominer parce qu'elle serait soi-disant plus forte. C'est une de plus à côté. Et il semble qu'il n'y ait aucune sélection qui se mêle de la renforcer ou de l'éliminer. Des mutations qui sont complètement neutres. Surtout, bien sûr, au niveau les plus biologiques, si on veut. Alors, il y a la théorie de l'Evo-Devo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est évidemment l'anglais qui utilise tous ces mots-là. J'ai mis en bas que c'était Evolutionary Developmental Theory. Donc c'est un autre type de réflexion sur l'évolution à partir du développement des comportements. Des comportements. Alors ça c'est très intéressant parce que cela veut dire qu'on doit impliquer aussi, selon les tenants de cette théorie, on doit impliquer les comportements des animaux au niveau de la population. Donc il y a des populations qui, disons, sont peut-être très faibles, hein, mais qui sont plus nombreuses, ou bien qui s'organisent mieux que d'autres, et qui finissent par l'emporter sur d'autres populations. Alors je prends un exemple ridicule, mais qui va gagner 1000 fourmis contre un éléphant, hein? Ah ben, il est possible que ce soit les 1000 fourmis. Quoi, hein? Évidemment, l'éléphant est plus fort, c'est sûr. Mais voilà, les fourmis, moi je ne sais pas, elles peuvent s'introduire partout et l'embêter un bon coup et finalement avoir raison de lui. Hein? On sait bien qu'il y a comme ça des espèces extrêmement... Hein, toutes ces bactéries qui nous embêtent, eh bien, qui sont extrêmement limitées et qui pourtant, ben, par leur comportement, leur organisation... peuvent donc exercer un autre type de sélection. Evo-Devo, c'est donc l'idée que le comportement même, l'attitude d'une peuplade, d'animaux, eh bien, peut les faire évoluer, disons, dans un sens plus favorable, et que ce sont les comportements qui sont acquis. C'est pas par hérédité de gènes, mais par imitation, hein. Et par apprentissage. Alors ça suppose évidemment un certain état d'avancement neurologique ou intellectuel, si j'ose dire, hein. Mais c'est très intéressant aussi, et il est certain que l'homme doit certainement son omniprésence sur la Terre à ce genre de choses, hein. C'est pas parce que ses gènes sont tellement meilleurs, mais c'est parce qu'il a un cerveau, hein, qui fait 2% du poids de son corps et qui bouffe 20% de son énergie. C'est incroyable ça, hein? Ça bouffe 20% de l'énergie, hein? C'est 2 petits pourcents. Voilà, donc ça, il faut que ça tourne, hein? Pardon? Le cerveau humain, oui. Le cerveau humain consomme 20% de l'énergie habituelle de l'homme. Du poids, oui. Enfin, ça peut être 3 pour certains, peut-être, et 40% pour d'autres d'énergie, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est un peu un chiffre intéressant quand même. Alors, il y a finalement le bad luck qui vient à bout des bons gènes. Vous pouvez avoir d'excellents gènes, mais si vous êtes pris dans un tsunami, ben voilà, un tremblement de terre, il y a peut-être des espèces extrêmement intéressantes et performantes. Ben, qui ont disparu alors que les autres, ben, elles ont eu la chance d'échapper. Alors on peut dire que c'est aussi la sélection naturelle, hein, mais naturelle alors dans un sens extrêmement large, et non pas où le volontarisme ou la violence voulue, etc., n'intervient pas, quoi. Alors, pour qu'une science, une théorie soit vraiment scientifique, il faut qu'elle présente des aspects formels, des modèles, des calculs, hein, des calculs qui permettent à la longue de prévoir, hein, de prévoir les choses. Alors là, je m'appuie sur un article de nouveau de ce livre de Dominique Lambert, que vous avez entendu ici, hein, qui se pose la question, puisqu'il est mathématicien, est-ce que les mathématiques peuvent être utilisées pour aider les théories de l'évolution, ou les différentes branches des théories de l'évolution. Alors il dit que malheureusement, on n'a pas encore trouvé la formule E égale MC carré qui expliquera la vie. Hein. Trouver une formule qui, de laquelle découlerait absolument tout, on en est bien loin, extrêmement loin. Les théories physiques, etc., peuvent le prétendre parce que les corps physiques sont un peu indifférents. Hein. Vous avez un corps qui a tel poids, donc, etc., etc., ou bien même le nombre d'atomes qui est assez grand dans le tableau de Mendeleïev, ce n'est rien par rapport au nombre d'espèces vivantes qui existent. Donc voilà, les corps sont un peu indifférenciés, et donc là, on peut faire des théories qui sont plus ou moins, englobantes, mais au niveau de la vie, on ne découvre pas grand-chose pour l'instant, dit-il. Il y a bien sûr quelques modèles mathématiques formalisables, si on veut, qui permettent d'expliquer certains comportements, certaines mutations, des choses comme ça. Mais on est loin, loin de pouvoir appliquer donc, ces outils formels dans les sciences de la vie. Il dit même ceci, c'est que parfois on a un modèle qui parvient un peu à décrire un phénomène, mais non pas à l'expliquer. Ou bien s'il l'explique en partie, il ne parvient pas à être prédictif. Parce que ça, c'est normalement la formule devrait faire ça, quoi, hein, non seulement décrire, expliquer, mais prévoir. Et même les rétrodictions, pas les prédictions, mais les rétrodictions, ça veut dire j'ai une formule pour expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Même les rétrodictions sont très difficiles à faire. Alors qu'on a tous les éléments et on sait comment ça s'est passé, et on essaie de construire un modèle mathématique qui expliquerait de manière déterministe comment ça s'est passé. Or, on sait comment ça s'est passé. Hein. Le phénomène est bien décrit, mais sans doute pas de manière suffisamment fine. Il est expliqué, mais sans doute de manière beaucoup trop grossière et il manque encore beaucoup d'éléments. On essaie de faire une rétrodiction et ça ne marche pas, dans la plupart des cas. Donc voilà, lui, il dit qu'on est encore loin. Or, il y a des titre ronflant de la formule de machin qui va expliquer l'évolution biologique et tout. Il dit que ce sont un peu des analogies vagues et fascinantes pour certains, mais qui sont un peu des trompe-l'œil. Alors voilà, l'évolutionnisme, une théorie scientifique, oui ou non? Eh bien, d'après Gagnon, que j'ai utilisé ici, c'est une théorie de low level, de petit niveau, comme théorie scientifique. Elle est très inspiratrice. Hein. C'est un beau schéma et beaucoup de scientifiques peuvent s'aider de ces intuitions, de ces postulats, etc. pour faire leur recherche. Mais à un niveau strictement scientifique, on peut la considérer comme une théorie, mais vraiment comme une théorie de niveau minimal, hein, parmi les théories scientifiques. L'Église, comme vous savez, n'a pas cru très rapidement à l'évolution. Il y a même une encyclique Humanis Generis qui a un peu tempêté contre la question de la création d'Adam, etc. Bon, en 1950, mais le pape Jean-Paul II, en 1998, je crois, a dit « Bon, c'est plus qu'une hypothèse, on peut la considérer comme une théorie. » C'est plus qu'une hypothèse. Dans le schéma, vous vous souvenez de Claude Bernard, là, hein, il y a hypothèse, et puis loi et théorie. Donc voilà, les scientifiques de la Curie romaine, peut-être, eh bien, sont passés à un niveau supérieur. Mais je crois qu'avec Gaillon, on peut dire que c'est une théorie où il y a encore beaucoup de choses à mettre au point. Elle est trop simple par rapport à la complexité du réel. Elle est très compliquée, mais par rapport à la complexité du réel, elle est encore loin d'être scientifiquement explicative.